sur ça et qu'il puisse voir s'il peut partir avec son épouse pour une conférence. Père éternel, merci pour ta parole. Ta parole est merveilleuse, Seigneur. Et me préparer à enseigner cette leçon me rappelait combien ta parole est merveilleuse. Ça faisait du bien à mon cœur de revoir ces vérités que je connais depuis tellement longtemps. Mais on a besoin, Seigneur. C'est salutaire. C'est un des rôles fondamentaux que ta parole exerce. C'est celui du rappel, celui qui nous ramène, Seigneur. Combien on a besoin de ça. Je te prie, Père, de bénir ce cours, de bénir ce temps qu'on passe ensemble. Je te prie d'être avec notre frère et pasteur Éric, de le restaurer, Seigneur, et de diriger pour discerner pour ce voyage. Je te prie de m'accompagner alors que j'irai prêcher à Doxa tout à l'heure et d'être avec le pasteur Clément dans la prédication ici, Seigneur. Merci, Père, de pourvoir à tous nos besoins fidèlement. C'est en Jésus qu'on te prie. Amen. Amen. Si c'était possible de fermer la porte en rentrant, messieurs, est-ce qu'un de ces jeunes hommes voudrait fermer la porte pour nous, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Vous avez les notes de cours disponibles, comme chaque semaine. En entrant, vous pouvez aussi vous abonner à notre liste d'envoi pour le cours. Donc, si vous passez par notre plateforme PCO ou si vous envoyez un courriel à info@église-espoir, on va vous ajouter. Vous allez avoir accès non seulement aux notes de cours, mais aussi aux vidéos. Donc, vous manquez une leçon, il n'y a pas de souci. Vous pouvez aller prendre le temps d'aller écouter ça, d'autant plus que ce cours-là est basé sur un livre seulement en anglais. Excellent livre, soit dit en passant. Il est assez cher, mais si vous lisez l'anglais, moi, je trouve que c'est... D'une part, parce que Paul Tripp écrit très, très bien. Il a vraiment une super belle plume. Et c'est pas tous les livres qui sont bien écrits, même quand ils disent la vérité. Mais donc, il écrit très bien, c'est très édifiant, c'est presque... Il aide à transformer la doctrine en dévotion, un peu comme un dévotionnel. Donc, moi, je trouve ça génial, génial. Merci pour les retours aussi. J'ai eu plusieurs retours la semaine dernière. Plusieurs étaient encouragés par l'approche du cours et se demandaient, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un cours de théologie systématique. J'ai déjà vu à quoi ça sert exactement. Bien, oui, on va réviser un peu des grandes doctrines. On voit 14 grandes doctrines à travers le cours. Donc, on va réviser un peu, c'est vraiment un peu, les grandes doctrines, mais on va surtout chercher comment ces vérités-là doivent être appliquées au quotidien dans nos vies. Donc, c'est vraiment le but de ça. La semaine dernière, on a pris le temps d'établir ensemble que c'est facile, c'est aisé pour un chrétien d'avoir un décalage énorme entre ce qu'il sait intellectuellement, ce qu'il croit adhérer vraiment intellectuellement, et ce qui en fait l'alimente dans ses pensées, dans ses passions, dans ses émotions au quotidien. Et ça vient avec notre nature déchue, n'est-ce pas? Ça vient avec le fait qu'on est pécheur quand même. Même si on est saint en Jésus-Christ, nous bronchons de plusieurs manières. Donc, ça vient avec ça. Mais en même temps, ce qu'on a mentionné la semaine dernière, c'est que lorsqu'on s'installe dans cet écart-là, lorsqu'il y a un écart dans un domaine ou l'autre de notre vie, entre ce que nous savons, que la parole de Dieu enseigne, puis on est convaincu que c'est vrai, que c'est bon, que c'est juste, et qu'on ne l'applique pas dans nos vies, quand cet écart-là est toléré dans notre vie, ça a des conséquences, parce qu'il y a un moment où on ne le voit plus, il y a un moment où on n'en a plus conscience. Les gens autour de nous, même ceux qui sont des hommes et des femmes de Dieu, peuvent avoir une certaine tolérance. Ils t'ont averti une fois, deux fois, trois fois. Et ce n'est pas un péché qui conduirait nécessairement à une mise sous discipline. Mais il y a un écart qui est là. Et un des endroits où ça fait le plus mal, c'est chez nos proches autour de nous, parce qu'on leur communique quelque chose de faux sur l'Évangile même. Tandis que lorsque je vais régulièrement vers des proches et dis « Écoute, je te demande encore une fois pardon. J'ai encore péché. Je suis conscient de l'écart qu'il y a là. Je veux pas que ça s'installe comme accepté. » Ça, c'est bénéfique. Ça, c'est salutaire. Ça va? C'est bon? Alors, ce matin, on va peut-être vers la doctrine que vous connaissez le plus. Et donc, peut-être que ça va être la leçon où vous allez avoir le plus le sentiment de déjà-vu, de répétition, mais en même temps, c'est le fondement. C'est la doctrine des Écritures, la doctrine de la parole de Dieu, la Bible. Qu'est-ce que nous croyons sur la Bible? Puis c'est intéressant parce qu'on est dans Romains, dans notre série de prédications. Romains 1 parle de ceux qui sont sans la Bible. Et Clément, ce matin, dans Romains 2, va parler de ceux qui peuvent avoir un écart, tout un écart, entre ce qu'ils ont appris dans la Bible, parce qu'eux ont la Bible, et ce que la Bible enseigne, ce que la parole de Dieu enseigne. Fait que c'est intéressant, on est dans des passages similaires. Dans vos notes, la Bible n'est pas seulement vraie sur le plan doctrinal, elle est absolument indispensable à la vie chrétienne quotidienne. Ce n'est pas simplement qu'elle dit la vérité, c'est que j'en ai besoin absolument au quotidien. Maintenant, à travers l'histoire de l'Église, la Bible a été plus souvent un livre public qu'un livre privé. Vous êtes conscient de ça? Dans le sens que c'est avec l'avènement de l'imprimerie, c'est avec le fait que plus de gens vont lire, bien qu'au Québec, on a beaucoup d'analphabètes fonctionnels qui peuvent décoder un formulaire pour aller chercher, je ne sais pas, le chômage, mais ils ne vont jamais le lire, ils ne vont pas faire une analyse de texte pour comprendre un texte. Bien, la Bible était premièrement, pendant des siècles et des siècles et des siècles, un livre public. C'était un livre à lire ensemble. C'est pour ça que le dimanche matin, on persiste à lire la Bible avant la prédication, parce que c'est un livre public. C'est un livre public, ça veut dire que mon rapport quotidien avec la Bible va beaucoup reposer sur ma mémorisation. C'est merveilleux, parce que la mémorisation, ça veut dire que c'est là dans mon cœur. C'est un des éléments qu'on va voir ensemble ce matin, très brièvement. Mais on est conscient de ça, et le fait que c'était un livre public, bien, les chrétiens se réunissaient régulièrement aussi. Donc, il y a beaucoup de choses dans notre style de vie contemporain qui est comme un peu contre-culturel à être un disciple qui grandit sainement dans la parole. Jean Calvin prêchait la Bible plus que 7 fois par semaine. D'accord? Je ne sais pas comment il faisait, le monsieur, mais il prêchait plus que 7 fois par semaine. Ses messages ne devaient pas être tous fignolés avec la parfaite illustration. Souvent, ça devait être vraiment d'expliquer le texte. Mais les chrétiens allaient à l'église tous les jours. Littéralement tous les jours à Genève, d'accord? Bon, peut-être qu'on n'a pas besoin d'aller à l'église tous les jours, mais peut-être qu'on a besoin d'être dans un groupe connexion puis d'ouvrir la Bible régulièrement dans la semaine, à la maison, avec des amis. Enfin, la Bible, ce n'est pas simplement la vérité que je dois apprendre comme un code, comme une loi. Moi, j'ai étudié une seule fois dans ma vie le code de conduite au Québec. Je ne sais pas si vous y retournez hebdomadairement ou je ne sais pas si c'est une lecture régulière, mais je veux dire, j'ai fait un cours théorique sur la conduite automobile. Après, je l'ai mis en pratique et j'observe chaque semaine des gens qui n'ont jamais fait ce cours-là conduire. Ou en tout cas, ils l'ont fait très, très rapidement. Parce qu'il y a plein de codes, c'est clair qu'ils ne les connaissent même pas. C'est même pas de la mauvaise foi, c'est clair qu'ils ne les connaissent pas. Donc, je me dis, OK, ils ont vraiment lu très rapidement. Mais il en demeure pas moins que, personnellement, je ne médite pas sur le code de conduite pour le Québec. T'sais? J'ai lu une fois, je l'ai appris, ça finit là. C'est pas ça, la Bible. C'est pas ça, la Bible, mais pas du tout. D'accord? Donc, la Bible n'est pas seulement vraie sur le plan doctrinal, elle est absolument indispensable à la vie chrétienne quotidienne. Dieu nous a donné sa parole parce que nous sommes encore pécheurs. On pêche encore. Nos pensées sont inclinées encore vers le mal régulièrement. Nous sommes souvent aveugles nous-mêmes. On se berne nous-mêmes. Et il ne suffit pas d'avoir un frère ou une sœur qui me confronte. La Bible est là pour ça. Nous avons tendance à nous justifier. C'est un peu l'autre côté hein, de se berner. On se trompe, puis après ça, on justifie. Un peu aussi ce que je parlais avec l'écart. Et nous sommes incapables de nous diriger correctement sans sa lumière. Sans la Bible, on est incapable de se diriger correctement. C'est tout le propos de Romains 1. D'accord? La parole de Dieu est un don d'amour sans lequel nous ne pourrions ni connaître Dieu, ni vivre pour sa gloire. Donc, un petit récapitulatif sur Romains 1. Pourquoi avons-nous besoin de la parole de Dieu? Bien, la création révèle Dieu, mais elle ne suffit pas. Donc, Paul est clair dans Romains 1. Tout dans la création pointe vers Dieu. Je me suis levé ce matin, j'ai pris un grand respire, et j'ai réalisé que j'étais encore vivant. Ça me parle de Dieu, parce que lorsque j'ouvre les médias, il y a d'autres personnes qui ne se sont pas réveillées ce matin, parce qu'il y a une bombe qui est tombée sur leur maison. Et donc ça me parle de Dieu, ça me parle de la providence de Dieu. Tout, tout dans la journée, lorsque je vois quelque chose de bon qui m'arrive, puis je dis, mais pourquoi est-ce qu'un autre ne s'est pas arrivé? C'est une provision de Dieu. Lorsque j'étudie la science, lorsque j'essaie de comprendre l'univers, tout me parle de Dieu. Donc, les indices de l'existence de Dieu sont partout dans la création. C.S. Lewis disait, Dieu est très, très, très négligent. Il laisse traîner des indices de son existence partout dans la création. Dieu traîne partout. Et donc, personne n'est excusable de ne pas croire en Dieu et de ne pas au moins prendre la distance de dire, je suis juste une créature, je ne suis pas le centre de l'univers. Tu sais, le summum de l'arrogance, c'est trouve le centre de l'univers en toi-même. À quelque part, c'est ça qu'on enseigne à nos enfants dans les écoles ou dans la culture. C'est le summum de l'arrogance, tu sais, parce que le centre va disparaître d'ici quelques années. On va t'oublier 30 ans après ta mort, il n'y a presque plus personne qui sait même que tu as existé à part Dieu. D'accord? Donc, les Écritures sont nécessaires parce que la création n'est pas suffisante. La création est suffisante pour convaincre de l'existence de Dieu. Et il n'y a aucun être humain qui va se présenter devant Dieu en disant « Mais je ne savais pas. » Oui, tu savais que tu es une créature. Et il faut faire attention, nous, comme chrétiens, dans notre désir de compassion lorsqu'on parle avec des gens qu'on aime, de s'éloigner de ce que la parole de Dieu nous dit lorsque la Bible nous dit que la création est suffisante. Quand moi je vous dis que la création est suffisante, certains d'entre vous, possiblement, vous dites, « Oui, mais tu sais, je pense à mon ami, c'est tellement une bonne personne. » Ah bon? Je savais pas, j'en ai pas un bon à l'Église, mais c'est tellement une bonne personne. Tu sais ce que je veux dire, Yannick? Tu sais? Puis là, on rentre dans une espèce de mode de compassion. Compassion pour le salut, c'est nécessaire. Mais une compassion qui nous amène à dire, ben, peut-être finalement que Dieu est injuste. Peut-être que Dieu est injuste, en fin de compte. Les chrétiens occidentaux, actuellement, sont souvent coupables d'une compassion qui est mal éclairée par la parole de Dieu. Je dois absolument avoir compassion de tous les êtres humains, de tous ceux qui ne connaissent pas Dieu, compassion d'eux dans leur folie. Mais lorsque ma compassion m'amène à dire, non, mais ce n'est pas qu'ils sont fous, c'est que Dieu a passé par là. Oh, OK, tu as besoin de lire ta Bible plus souvent. Tu as besoin de retourner aux Écritures. Je comprends la tentation, hein, je la comprends. Mais on va voir, la parole de Dieu est là pour nous enseigner, pour nous corriger. Et donc, si je vais jusque-là dans ma compassion, et je vous le dis là, probablement que vous luttez avec cette compassion-là qui devient un péché lorsqu'elle contredit les Écritures à l'égard de quelqu'un autour de vous qui lutte dans un péché ou qui est aux prises avec une dépendance, puis vous êtes un peu dans un mode, mais pourquoi Dieu? Pourquoi Dieu l'as-tu fait ainsi? Oh, qu'on l'entend celle-là. Pourquoi l'as-tu fait ainsi? D'accord? Vous me suivez? Est-ce que vous avez des questions sur ça? J'ai aucun problème à prendre des questions ou des réactions ou des contradictions. Ça va? OK. Donc, la parole de Dieu est nécessaire parce que le message est insuffisant. Le message dans la création n'est pas suffisant pour nous instruire à salut. Il est suffisant pour nous condamner. Pas suffisant pour nous instruire à salut. Et donc, on devrait avoir compassion de ceux qui vivent sans la parole de Dieu. Parce que déjà, un chrétien sans la parole de Dieu devient fou. Cette semaine, j'ai parlé avec deux personnes qui, dans ma conscience à moi, je pense qu'ils sont chrétiens, mais ils sont en train de faire des choix de vie qui sont à l'opposé de la vie chrétienne. Puis, lorsque j'ai parlé avec eux, c'était évident qu'ils estimaient faire la bonne chose en allant à l'encontre de la parole de Dieu. Je pense qu'ils sont chrétiens, les deux. Mais dans une situation, on parle de discipline ecclésiastique, en fait, dans les deux situations. D'accord? L'Église va être là pour dire, non, you, t'es rendu tellement fou que les chrétiens ne reconnaissent pas en toi la vie chrétienne. C'est ça la mise sous discipline. Hein? C'est un avertissement avant que les gens se présentent devant Dieu. C'est pas par méchanceté, là, au contraire. C'est vraiment fait avec amour pour que les gens puissent se repentir et réaliser, L'Église ne me reconnaît plus comme chrétien. Peut-être qu'il faut que je me pose des questions. Mais donc, si des chrétiens qui s'éloignent de la parole de Dieu peuvent devenir fous, on devrait avoir compassion de ceux qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Parce que pensez-y une seconde. Si tu n'as pas la Bible et que tu as juste la révélation générale, comment tu fais pour discerner ce qui est bien et ce qui est mal avec une absolue certitude? Avec la création, je peux reconnaître qu'il y a un créateur. Mais je veux dire, regardez les valeurs qu'il y a dans le monde et que les gens vont défendre bec et ongle. Je parlais avec quelqu'un dernièrement, puis il me disait, Yannick, est-ce que tu crois que la Bible est en faveur de la peine de mort? Je vais scandaliser quelques-uns ici. Je suis désolé, ce sera un sujet pour une autre fois. Oui, absolument, je crois que la Bible est en faveur de la peine de mort. OK, donc tu es pour l'avortement. C'est la première fois que je l'entendais, celle-là. Qu'est-ce que tu veux dire, je suis pour l'avortement? Ben, tu es d'accord qu'on tue des gens, donc c'est correct qu'on tue des enfants. Oh, j'ai trouvé ça intéressant comme raisonnement. Pour la personne, ça tenait la route complètement. Elle n'était pas capable de faire la distinction entre tuer un fœtus puis tuer quelqu'un qui a tué. Et quand je dis tuer, je ne parle pas de vengeance, je parle de l'État qui intervient le plus justement possible, à peine de mort. Elle n'était pas capable de faire la différence entre peine de mort qui est appliquée après un procès, une évaluation des faits, puis tuer un fœtus. Même chose. Et je pense qu'elle était sincère. Puis là, on pourrait aller loin, là, on pourrait aller dans beaucoup de choses. Et en Occident, on est un peu surpris parce que pendant des siècles, nos valeurs principales étaient éclairées par les Écritures. Sans dire que la société était chrétienne, loin de là, nos valeurs principales étaient éclairées par les Écritures. Et là, on se retrouve dans une époque post-moderne, post-chrétienne, au Québec particulièrement. Là, les intuitions des gens, quand tu parles des intuitions, c'est comme les valeurs profondes vont être directement opposées aux Écritures. Là, pour eux, c'est évident, c'est ça qui est bon. Mais c'est parce que la révélation générale dans la nature n'est pas suffisante pour nous révéler ce qui est bien et ce qui est mal en toute chose. Voyez-vous? Donc, j'ai absolument besoin de la Bible. Et donc, je devrais avoir compassion. Absolument, je vais avoir compassion. Je juge personne dans le monde en disant, « Ah, oh, il est bien minable, il est dans le péché. » Non, la compassion de dire, « Non, il est fou, parce qu'il n'y a pas la parole de Dieu, comme je suis fou chaque fois que je m'éloigne de la parole de Dieu. » Mais lui n'a même pas la connaissance des Écritures. Donc, il y a vraiment lieu d'avoir beaucoup de compassion. Ce que je disais tantôt, c'est que lorsque ma compassion contredit la Bible, en disant, par exemple, tu sais, ah, Dieu l'a fait comme ça, tu sais, c'est si Dieu l'aime, il va juste le laisser agir comme ça. Moi, les amis, je suis un colérique par nature, là, je sais que c'est très difficile à croire. Dieu m'a fait comme ça? Non, je suis brisé par le péché. Je suis brisé par le péché. Donc, on devrait avoir compassion. C'est pas, on n'est pas en train de se crêper le chignon en se disant, nous, écoute, nous, on a la vérité, fait que, wow. Non, pas du tout, pas du tout. On doit aimer, on doit être rempli de compassion. Mais en même temps, je veux être éclairé par la parole de Dieu. Le vrai problème du cœur humain, c'est que le péché nous désoriente. Je suis toujours à la page 1 dans mes notes. Le péché n'est pas seulement une mauvaise action, c'est une force qui fausse notre vision. Donc, quand je pêche, ce n'est pas seulement que j'enfreins une règle, c'est que je me déforme moi-même. Ça a un impact sur moi. Vous savez, c'est quoi le behaviorisme? Hein, on va se conditionner en posant certains gestes, puis ça va nous changer intérieurement. Mais je pense que la Bible, dans une certaine mesure, est d'accord avec ça. Et donc, quand je pêche, ce n'est pas seulement que j'enfreins une règle, c'est que je suis en train de me redéfinir. Maintenant, si je me repens, ça va. Mais si je persiste dans ce péché-là, on parlait de l'écart entre ce que je dis croire et ce que je pratique. Si je me livre à ça, tranquillement, je suis en train de déformer ce que je suis. Le péché fausse notre vision. Il fausse notre perspective du monde, carrément. Il vient transformer notre manière de voir le monde, carrément. Nous ne voyons pas seulement mal. Nous croyons souvent que nous voyons bien. Alors, non seulement le péché déforme ma vision des choses, mais en plus, je peux être convaincu que je suis dans le vrai. Nous nous faisons confiance à tort. Nous résistons à la confrontation que la parole est censée apporter dans nos vies. Parce qu'il y a un endurcissement du cœur. Puis là, il y a plein d'auto-justifications. Puis là, j'ai raison. Puis, vous voyez? Donc, le péché a beaucoup de conséquences. Ce n'est pas juste que j'enfreins une loi de Dieu. C'est que progressivement, je suis en train de renforcer en moi un être différent que celui que je suis appelé à être. Au début, c'est le péché. Après, c'est la tolérance. Après, ben, je vais me justifier, je vais me complaire dans le péché. Et là, si je suis habile, si en plus je connais la Bible, si je suis bon débatteur, il n'y a pas grand-chose de plus dangereux qu'un pasteur qui se laisse aller dans le péché. Parce qu'il va se berner lui-même. C'est pourquoi on a besoin d'un regard extérieur, vrai et fidèle, la parole de Dieu. Oui, bien sûr, l'Église. Oui, mais là, moi, quand quelqu'un vient me confronter avec un péché dans ma vie, si je n'ai pas une bonne attitude, là, ça se peut que je te ramène ça vers toi, ça se peut que je me défende, ça se peut que je me justifie. Plus difficile avec la Bible, c'est la parole de Dieu. Tant que le péché habite encore en nous, il y aura des inexactitudes dans la manière dont nous percevons les choses, parce qu'il y aura des zones d'aveuglement spirituel dans nos cœurs. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ça vient avec notre nature déchue. Le vieil homme se manifeste à différents endroits en nous. Je suis pas, ma pensée n'est pas toute conforme à la pensée de Dieu. Ça va être un combat jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Et c'est pour ça que j'ai besoin de la parole de Dieu. Maintenant, je voulais juste réviser une petite chose, je pense, qui est juste ici. Oui, je reviens à la page 1 un instant. Super important. Je vous invite à aller lire notre confession de foi, la déclaration sur la parole de Dieu. Quatre caractéristiques de la Bible que la Bible affirme sur elle-même. D'accord? Lorsqu'on parle de la doctrine de l'inspiration des Écritures ou de la doctrine des Écritures, je veux juste les revoir rapidement avec vous. Premièrement, la parole de Dieu est inspirée de Dieu. Ça veut dire qu'elle vient du souffle de Dieu. Avant même que Dieu ne fasse mettre par écrit sa parole, Dieu parlait déjà. Hein? Jean nous révèle que Dieu a créé en parlant, mais dès qu'Adam et Ève se retrouvent dans le jardin, qu'est-ce que Dieu faisait? Il allait auprès d'eux, quotidiennement, parler avec eux. Donc Dieu parle. Dieu est un être qui parle. Et la parole de Dieu, la Bible, nous vient de l'inspiration de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu. Nous vient du souffle de Dieu, nous dit Pierre. Et donc, elle est inspirée de Dieu. Maintenant, quand je vais parler avec quelqu'un qui ne connaît pas les Écritures, qui ne connaît pas Dieu ou qui connaît de Dieu seulement ce qu'on peut connaître à travers la création, bien, ça va être ça le vrai point de litige. C'est est-ce que vraiment c'est la parole de Dieu? Il y a plein de religions. Finalement, est-ce que Dieu s'est révélé? C'est le fondement. Toute notre foi repose sur une première vérité, c'est que nous croyons que Dieu a parlé. Et en fait, ce que j'observe depuis peut-être une quinzaine d'années, c'est que je vois certains hommes, ça arrive toujours avec des hommes, je vois certains hommes quitter l'Église, abandonner la foi, parce qu'ils commencent à douter de l'inspiration des Écritures. Ils remettent en question des vérités dans la parole, remettent en question la vérité de la parole, puis termine agnostique. J'en ai vu plusieurs. 5, 6, 10, d'accord? Donc ça, c'est le fondement. La parole de Dieu est inspirée de Dieu, elle nous vient de Dieu. Ça doit être absolument clair dans notre esprit. Ça doit être une conviction très claire. Elle est fiable. Elle est fiable, c'est-à-dire que Dieu l'a protégée d'erreurs significatives qui feraient que on ne pourrait pas savoir ce que Dieu nous dit. Une des particularités du christianisme, si je prends par exemple, si je compare avec l'islam, souvent je compare avec l'islam, mais c'est à l'extérieur du christianisme, je ne prends pas le judaïsme, parce que si tu es conforme à tout l'Ancien Testament, ça va pointer vers le nouveau, mais à l'extérieur du christianisme, l'islam est le plus près de nous. entre autres parce que c'est inspiré de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, Mahomet s'est quand même inspiré du judaïsme et du christianisme en écrivant le Coran. Mais l'islam va affirmer que le Coran, dans sa version actuelle, n'a absolument aucune erreur de copiste ou quoi que ce soit. Si vous faites vos recherches comme il faut, les musulmans, les docteurs musulmans disent que ce n'est pas vrai, mais si vous parlez avec un musulman, c'est ça qu'ils vont vous dire. Les chrétiens reconnaissent qu'à travers le travail de copistes, il y a certaines erreurs qui se sont glissées. Et donc, on a une science et des experts qui passent leur vie à étudier des manuscrits pour dire où est-ce qu'on a des doutes, parce qu'on a des milliers de manuscrits. Ancien Testament, Nouveau Testament, encore plus le Nouveau Testament. Et donc, c'est toute une science. C'est pour ça que vous avez des petites notes dans vos Bibles. Et c'est une des qualités de lire une Bible écrite en papier, d'accord? Parce que la Bible électronique, vous allez juste avoir le texte, mais déjà, ça ne vous porte pas à l'étude. Tandis que les notes dans une bonne Bible d'étude, déjà, nous aident beaucoup à étudier. Mais ça va être indiqué, là. On va dire, écoute, il y a beaucoup de manuscrits qui n'ont pas ces trois mots-là. Fait qu'on a une question. Mais malgré le fait qu'on reconnaît tout ça, les Écritures sont fiables. Et ça, on a la conviction de ça, entre autres grâce à cette science-là. Aucun livre au monde aussi complexe que celui-là n'a été préservé et conservé comme celui-là. Ça n'existe pas. 66 livres de la Bible, 40 auteurs différents sur des milliers d'années de rédaction. Il n'y en a pas de livres, ça n'existe pas. Là. Il y a plein de gens qu'on prend pour acquis qu'ils ont existé sur la base de trois manuscrits. On est certain que ces gens-là ont existé. C'est des personnages historiques. On a finalement à peu près pas de preuves de leur existence. Mais donc, la Bible est fiable. Elle est fiable par sa conservation. Elle est fiable lorsqu'on l'étudie en elle-même et qu'on étudie, est-ce que la Bible se contredit? Puis je me promène dans un livre ou l'autre sur tous ces siècles de distance. Puis je vois ce message incroyablement présent, développé, uniforme, avec une complexité extraordinaire. L'Évangile, vous savez, lorsqu'on le résume dans simplement en disant création, chute, rédemption, recréation ou restauration, je traverse toute la Bible, là, je comprends ce fil-là, ce fil rouge qui traverse toute la Bible, qui est Jésus-Christ, la révélation du salut. Là, tu dis, OK, non, mais c'est magnifique. Là. Il n'y a rien de comparable sur la terre à ça. Ça n'existe pas. Pour avoir autant de cohérence que ça, il faut que ce soit un auteur qui consacre sa vie à écrire. Autrement, tu ne peux pas avoir une pensée avec tous ces auteurs qui ne se connaissaient pas, évidemment, parce qu'ils ont vécu à des siècles différents, mais dans des cultures complètement différentes, bien souvent, dans des genres littéraires complètement différents. La Bible est fiable. Authoritative, là, je suis désolé, ça aurait dû être mieux traduit. Fait autorité. La Bible fait autorité. Ça veut dire que la Bible est au-dessus de moi. Un des plus grands pièges des théologiens libéraux, c'est de dire que l'Église a créé la Bible. Là, vous allez dire, mais c'est des chrétiens qui ont écrit le Nouveau Testament. Oui, mais est-ce qu'on croit que c'est vraiment inspiré par Dieu? Parce que c'est la Bible qui crée l'Église. C'est la révélation de Dieu qui fait que lorsqu'on y croit, on devient chrétien. Ce n'est pas l'Église qui a créé la Bible, c'est Dieu qui a créé la Bible. Et donc, elle fait autorité. Je n'ai pas à dire, je prends ça, puis je ne prends pas ça. Elle fait 100% autorité sur nos vies. Et donc, si tu as un endroit dans ta vie où tu luttes avec certains passages des Écritures, que tu luttes dans la compréhension, que tu luttes dans ta disposition à les honorer, pas de problème. Comme on l'a dit, on lutte jusqu'à la fin, d'accord? Mais que tu luttes en disant, je ne pense pas que ça, c'est digne de Dieu. Par exemple, il y a des passages qui sont durs à avaler en titi dans la Bible. Dans les juges, monsieur, il sort son couteau, il fait une livraison Uber aux tribus, des petits morceaux de sa femme, de sa concubine. C'est horrible. Non, mais honnêtement, là, plus gore que ça, c'est difficile. Ou, tu sais, plus... C'est quoi gore en français? Je m'excuse. En tout cas, plus... En québécois, dégueulasse. OK? Plus dégueulasse que ça, c'est dur à imaginer. Il y a des parties de la Bible qui sont dures à accepter. Mais s'il y a des domaines dans les Écritures où tu dis, moi, je n'accepte pas ça. Je vais le dire comme ça, c'est pas digne de Dieu. tu es dans le trouble. Tu es dans le trouble. Et il faut que tu aies réglé ces questions-là. Parce que la Bible fait autorité. Il y a des passages que je peux ne pas comprendre. Il y a des passages où je peux dire, « Seigneur, je comprends ce que tu dis. Aide-moi à me repentir. J'ai beaucoup de difficultés à vraiment m'aligner sur ta parole de Dieu, puis à obéir, puis à l'appliquer, puis à le mettre en œuvre. » D'accord? Et donc, il y a des passages où on ne sera peut-être pas d'accord sur la compréhension du texte. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose complètement. Enfin, la parole est suffisante pour la foi et pour la vie. Et chaque fois que les chrétiens commencent à aller vers des trucs qui sont tendances, des nouvelles modes dans l'Église, des choses comme ça, il faut être attentif pour dire, est-ce qu'on va là parce qu'on pense que les Écritures ne sont pas suffisantes? Je ne suis pas en train de dire que ce que les gens écrivent, notre cours est inspiré d'un livre écrit par Paul David Tripp. Paul Tripp a écrit d'excellents livres. Je lis beaucoup d'autres livres que la Bible. Mais tous ces livres-là ne sont pas nécessaires à ma foi. La Bible est suffisante pour répondre à toutes les grandes questions auxquelles j'ai à répondre dans ma vie, les enjeux éthiques, les enjeux moraux. Elle ne me dira pas comment faire mes impôts, là. Mais elle est suffisante pour connaître Dieu, pour que l'homme, la femme de Dieu, soit propre à toute bonne œuvre, disposé, équipé, prêt à user de discernement. La Bible est suffisante. En somme, c'est ça la doctrine des Écritures. D'accord? Si je vais juste sur l'aspect très, très théorique, là, inspiré, fiable, donc elle a été conservée, fait autorité en termes de morale, en termes de connaissance de Dieu, en termes de discernement, en termes de révélation de qui est Dieu, sa personne, qui nous sommes, pourquoi nous sommes sur la terre, fait autorité, suffisante pour la foi et pour la vie. Est-ce que vous avez des questions sur ça ou des réactions? Oui, merci Lynn, j'apprécie énormément.
Permis d'avoir l'Internet, mais avec le réchauffement de la planète... Pardon, je ne l'avais pas vu. Avec le réchauffement de la planète, on a pu trouver l'Arche de Noé exactement où ce que la Bible dit qu'elle est. Puis on a montré cette vidéo-là aux enfants. Puis quand ils ont vu ça, c'est comme s'il leur était venu un souffle nouveau. Mm-hmm. Ils disaient, je vais montrer ça à mon ami. Puis ils sentaient moins gênés ou plus équipés à aller à l'école avec la Bible, puis dire, regardez, ici, c'est écrit dans la Bible, puis là, ils leur montraient la vidéo, puis à cause du réchauffement de la planète, ouais, ils l'ont trouvé. Et c'est des archéologues.
Oui.
Fait que je trouvais que ça venait renforcer ce que vous venez de dire, puis en même temps, Dieu nous donne maintenant des preuves hors Bible, si je peux dire, qui montrent qu'il est, et ce qu'il a dit, il est arrivé, et ce qui va arriver dans le futur va aussi arriver, parce que dans le passé, c'est arrivé.
Merci, Lynn. Je vais prendre ce que tu dis, justement, pour soulever un point. Quand les Écritures semblent être en contradiction avec la science, je prends un pas de recul. Vaut mieux être silencieux que juste être, tu sais, un peu arrogant, en disant « Non, c'est clair que c'est faux, parce que la Bible dit ça. » Des fois, ce qui s'est avéré, c'est qu'on a mal compris la Bible, puis avec le temps, on l'a découvert. D'accord? Donc, je vais être humble. Mais souvent, en effet, si on laisse assez de temps à la science, elle va venir confirmer les Écritures. C'est particulièrement vrai dans le domaine de l'histoire et de l'archéologie. Donc, plusieurs personnages de l'Ancien Testament dont on n'avait jamais entendu parler à travers l'archéologie, puis là, les archéologues disaient non, les Écritures ont inventé, c'est pas vrai ça. Puis finalement, on fait des découvertes plus tard, puis on dit, on a une inscription qui nous dit que ce roi-là existait. Donc, c'est souvent vrai. Tout à fait d'accord avec toi. Je ne suis pas 100% convaincu de cette découverte-là par rapport à l'Arche de Noé. J'ai vu aussi, je ne suis pas tout à fait convaincu que c'est ça, mais c'est possible. Mais je suis d'accord avec le fond de ton point, c'est que régulièrement, l'archéologie, si on lui donne le temps, elle vient confirmer les Écritures. Et on voit encore une fois que les Écritures sont véridiques. D'accord? Donc, ça, c'est la doctrine de de la Bible. Maintenant, qu'est-ce que ça change dans nos vies? C'est vraiment là qu'on veut se concentrer davantage à travers ce cours-là. C'est qu'est-ce que les Écritures viennent faire dans nos vies? Quelles implications elles ont? Si vous allez à la page 2 de mes notes au point 3, ce que la parole de Dieu fait dans notre vie. Et à la lumière de ce qu'on va voir sur ce que la parole de Dieu fait, bien, on ne devrait pas traiter les Écritures comme un pot de vitamines. Je ne sais pas qui prend des vitamines ici. Moi, j'ai mes petites vitamines le matin, là. J'ai commencé à avoir des crampes dans les jambes. Puis là, je dis, ah, OK, potassium, ça a de l'air. Il faut que je prenne du potassium. Magnésium, OK, on va y aller. Fait que j'ai mes petites vitamines, tu sais. Puis le matin, bien, c'est important, ou le soir, peu importe. Pop, je prends mes petites vitamines, je suis parti pour la journée. C'est pas compliqué, c'est une petite habitude à placer dans ta vie. Tu prends tes petites vitamines, puis tout va bien. C'est pas la Bible. La Bible, c'est pas des vitamines que tu peux juste comme... J'ai pris mes vitamines, on passe à un autre appel. Je pense que souvent, c'est notre réflexe. C'est de traiter la Bible comme un pot de vitamines. As-tu pris tes vitamines? Ah oui, j'ai pris mes vitamines. Non, c'est pas mal plus que ça. Ça ressemble plus à inviter des Français à manger chez vous puis prendre un repas avec eux. Faut que vous invitiez là, des Français, ou soyez invités par des Français à aller manger. Là. Vous allez comprendre, c'est quoi manger. C'est peut-être vrai des Italiens, Arturo, je ne sais pas. Là. Mais, je veux dire, au Québec, on ne sait pas c'est quoi manger. T'sais, c'est flic-flac, c'est fini, on passe à un autre appel. C'est comme des vitamines. T'sais. C'est bon, là, mais on s'en piffe, puis on passe à un autre appel. Non, ça ressemble plus à... Moi, ça m'a frappé les premières fois que je suis allé en France, puis les Français m'invitaient à manger chez eux. Mais ça finit plus, cette affaire-là. Ça dure des heures. On commence avec l'apéro, puis là... Puis c'est pas qu'à la fin, on a mangé comme des cochons, comme on dit au Québec. Mais on a eu du bon temps. On a passé du bon temps. On a pris un repas ensemble. On voit ça dans les Écritures constamment avec Jésus, avec les disciples. Ça ressemble plus à ça, consommer les Écritures. Ce n'est pas des vitamines, d'accord? Et donc, ça c'est la question à laquelle vous devriez chercher à répondre. Est-ce que les Écritures, dans ta vie, est-ce que c'est tes petites vitamines du matin, du soir, où tu dis, « Ah, ça fait 3 jours, j'en ai pas pris », tu sais? Je reprends mes vitamines. Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est un bon repas qui dure 2 heures autour de la table? Et je ne dis pas que vous faites prendre 2 heures tous les jours, mais je parle de posture, d'attitude. D'accord? La parole de Dieu n'est pas passive. Elle agit puissamment dans la vie du croyant. Tournez avec moi dans 1 Corinthiens 18, s'il vous plaît. 1 Corinthiens 1, verset 18. Soit dit en passant, ce sera bon pour vous d'avoir une Bible dans ce cours-là. Au moins pour avoir de l'air intelligent. C'est important, les apparences. Hein? Je fais une blague. 1 Corinthiens 1, ben, peut-être pas, là, mais apportez une Bible. C'est bon? Moi, j'accepte ça. Tous les formats sont bons, électronique, papier. J'aime définitivement plus le papier pour toutes sortes de très bonnes raisons, mais ça ne m'offense pas que vous ouvriez vos téléphones ici. Aucun problème. 1 Corinthiens 1, verset 18, « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. » Cette prédication-là vient de la révélation. La prédication de la croix, la croix, tu la trouves nulle part ailleurs que dans la Bible. Tu ne trouves pas ça en marchant dans une forêt, d'accord? Tu as besoin de la Bible. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, « Je détruirai la sagesse des sages et je rendrai nulle l'intelligence des intelligents. » Je reviens sur ce qu'on mentionnait, ceux qui n'ont pas la Bible sont fous. Ce n'est pas par mépris que je dis ça. C'est que moi aussi, avant de lire les Écritures, j'étais fou. Pire que ça encore, je redeviens fou quand je m'éloigne des Écritures. Mais la Bible, la prédication de la croix, ici, là, sous-entendu des Écritures, c'est là que je vais trouver la croix, est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, « Je détruirai la sagesse des sages et je rendrai nulle l'intelligence des intelligents. » Les gens les plus respectés dans la société occidentale, québécoise, actuelle, sont des gens qui ne connaissent rien aux Écritures. Et ils sont perçus comme les sages de la société. Souvent, ce qu'ils disent, c'est complètement fou. Complètement fou. Parce qu'ils n'ont pas la parole de Dieu. Donc, une des choses que la parole de Dieu fait, c'est qu'elle nous sauve et elle continue de nous sauver. Tournez avec moi dans 2 Timothée 3:15. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres, la parole de Dieu. Tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Super intéressant que Paul écrive ça à Timothée. Il est en train de parler à un enseignant de la parole de Dieu. Puis il dit quoi? Il dit, la Bible peut, toi l'enseignant, toi le docteur, toi qui es l'expert de la Bible, la Bible peut te rendre sage à salut. Est-ce qu'il n'est pas déjà sauvé? De quoi il parle? Les Écritures, non seulement nous ont sauvés lorsque j'ai cru dans l'Évangile, hein? La vérité vient de la parole de Dieu, l'Évangile vient de la parole de Dieu, j'adhère à ça, je suis sauvé, mais les Écritures activement me sauvent encore de beaucoup de manières. On va en voir plusieurs. Et donc, c'est toute la tension qu'il y a dans le Nouveau Testament. J'ai été sauvé, mais je suis sauvé et je serai sauvé. J'ai été sauvé lorsque j'ai cru en Jésus-Christ. Dieu m'a pardonné mes péchés, ça va. Je suis sauvé dans ma persévérance dans la foi. Et donc, celui qui abandonne la foi ne devrait pas s'en aller en disant, j'ai été sauvé, tout est beau. Non, tu abandonnes la foi. Tu devrais dire, est-ce que vraiment j'ai été sauvé? C'est la question que tu devrais te poser. Et je serai sauvé parce que il y a des petits bouts de moi qui vont juste, ça va juste se régler de l'autre bord. Je vais continuer encore à être attiré par le péché. D'accord? Et donc, Paul dit à Timothée, il lui dit, la parole de Dieu peut te rendre sage à salut. La parole de Dieu peut te rendre sage à salut. Il n'y a personne ici qu'au jour de sa conversion, il est devenu sage à salut, comme Paul l'entend ici pour Timothée. Parce que toute la pensée de Dieu n'est pas une science infuse qui t'a été donnée à ta conversion. Tu sais, quand au jour de ton baptême, là, fou, ça n'a pas changé grand-chose dans ton intelligence. Intelligence, je parle d'intelligence selon Dieu, vous comprenez? Et donc, au jour de ma conversion, il y a, pour certains d'entre nous, il y a des réalignements majeurs. Moi, ma conversion, ça a été, dans un certain sens, violent. Je me suis converti à 19 ans. Il y a beaucoup de choses qui se sont alignées en 24 heures dans ma vie. Là. Il y a toutes sortes de choses que j'ai mis de côté. Pour certains autres, bien, vous êtes tombés dans la potion magique quand vous étiez petit. Fait que vous avez plutôt grandi dans la foi. Puis des fois, vous dites, ma conversion, j'essaie de voir ça clair. Je comprends. Mais aucun d'entre nous est devenu sage à salut au moment de sa conversion. Parce que les Écritures ont encore besoin de me sauver. J'ai encore besoin d'être sauvé par la Bible quotidiennement, hebdomadairement. J'ai mentionné tout à l'heure en introduction, cette semaine, j'ai eu à rencontrer 2 personnes qui agissent comme des non-chrétiens à 100%. 100%, j'exagère, mais dans des domaines, ils sont 100% convaincus de des choix qu'ils font, et c'est des choix qui sont 100% non-chrétiens. Je pense qu'ils sont chrétiens. Parce qu'ils ont besoin d'être sauvés encore aujourd'hui. Et clairement, la parole de Dieu n'est pas l'objet de leur méditation quotidienne. Parce qu'ils ne feraient pas ce choix-là. Ils ne le feraient pas. Pour ça, je vous dis, la parole de Dieu, ce n'est pas une vitamine. Non, c'est toute la patente. C'est tout le programme. Est-ce que la parole de Dieu est active dans ta vie quotidiennement pour te sauver? Et ça, c'est ton rapport avec la parole de Dieu qui répond à cette question-là. Donc, toute l'idée de, d'avoir un rapport à la Bible qui est très culpabilisant, tu sais, puis OK, il faut que j'aille lire ma Bible, OK, j'ai lu ma Bible, ça ressemble à prendre tes vitamines. Il faut que j'aille prendre mes vitamines, j'ai pris mes vitamines, OK, check, j'ai pris mes vitamines. C'est pas ça l'affaire. Souvent, je parle de ma santé, hein. J'ai 55 ans. Ça ne marche plus, là, juste prendre des vitamines. Il faut que ce soit un programme, la patente. Il faut qu'il y ait du cardio, il faut que je mange bien toute la journée, il faut que je m'assure de dormir assez toutes les nuits. Moi, j'aime beaucoup travailler 60 heures semaine. Si, je vous dis, là, j'aime énormément ça, c'est un plaisir pour moi. S'il n'y avait personne d'autre dans ma vie, je ferais 80 heures semaine, ce serait le bonheur total. C'est pas intelligent, là, je sais, là, mais j'aime vraiment ça. Mais je ne peux plus rouler comme je roulais à 35 puis à 40 ans. Je suis très satisfait avec 4h30, 5 heures de sommeil. Mon corps, il dit, t'es fou, là, ça ne marche pas. Là. Essaye de dormir 6 heures. Essaye de dormir 6 heures. Ça va t'aider à mieux penser dans la journée. Je le vois très bien. Bon, ben, c'est un programme. Rendu à mon âge, c'est un programme être en santé. C'est pas des vitamines que je fais juste. Est-ce que la Bible te sauve quotidiennement? C'est ton rapport à la Bible. Est-ce que c'est ton programme santé spirituelle ou c'est tes vitamines? C'est toi qui le sais. Mais vous comprenez que rester avec un rapport très immature à la Bible qui dit, OK, je me sens coupable, j'ai pas lu ma Bible, ça n'a rien à voir. Pas une question de culpabilité, c'est une question de survie. Tu comprends? Jamais tu te lèves et tu dis, je me sens coupable, j'ai pas respiré depuis 6 minutes. Tu ne te sens pas coupable de ne pas respirer. Tu te sens imbécile. Respire, c'est tout. Ouvre la bouche puis respire. Donc, ce n'est pas une question de culpabilité, là. Ce n'est pas ça. C'est une question de survie. Parce que la Bible nous sauve. Je trouve ça intéressant parce que Paul Tripp, dans son livre, il nous confronte parce qu'il dit, moi, personnellement, je vous le dis honnêtement, là, ça fait un petit bout là, que je suis chrétien, j'ai 55 ans, je me suis converti à 19 ans. Les chrétiens au Québec, les chrétiens à l'espoir passent moins de temps dans la Bible qu'au jour de ma conversion. Les chrétiens de cette église connaissent moins la Bible que les chrétiens de cette église il y a 30 ans. Et je trouvais ça intéressant parce que Paul Tripp dit ceci, il dit c'est peut-être pour ça qu'on a l'impression que l'église ressemble plus à une armée après une grande bataille. Vous avez déjà vu dans des films, hein, après un gros conflit, là, tu sais, où il y a des blessés et tout le kit, qu'est-ce que l'armée fait? Écoute, elle compte ses morts, elle soigne, elle prend soin, on se réorganise, on se repose, tout ça. Il dit, l'Église, aujourd'hui, souvent, ressemble plus à ça qu'à une armée qui prend la prochaine colline. Et il y a vraiment une place pour ça dans l'Église. L'Église, c'est correct, c'est une place, un hôpital, l'Église. Mais ce n'est pas seulement un hôpital, l'Église. On a une mission. Notre mission, ce n'est pas de panser nos plaies jusqu'à ce que mort s'en suive. Notre mission, c'est d'aller annoncer l'Évangile. J'ai trouvé ça intéressant. Paul Tripp fait juste poser la question et dit, est-ce que ce n'est pas parce que la Bible n'est pas assez présente dans la vie des croyants, comme son premier conseiller, son premier mentor, son premier enseignant, tu sais, la première personne, je trouvais ça intéressant, un peu plus loin dans le livre, il va donner cette image-là, j'ai trouvé ça très fort. Il dit, la Bible est mon premier répondant. Vous comprenez le concept du premier répondant? Sur une urgence, il y a un accident, tout ça. Souvent, les pompiers sont les premiers qui arrivent sur place, donc ils doivent être prêts à faire toutes sortes d'interventions que normalement, tu voudrais que ce soit un ambulancier qui fasse. D'accord? Mais le pompier est le premier qui arrive, il est le premier qui intervient. Souvent, il faut qu'il soit prêt à le faire. Les policiers doivent être prêts à faire des interventions aussi. Donc, qui est le premier répondant? Pour beaucoup de chrétiens, leur premier répondant, c'est le pasteur. Donc, une fois par année, un peu en panique, il m'accroche, il dit, Yannick, j'ai besoin de prendre un café, il faut qu'on se parle. Ça me fait plaisir, là, c'est correct, c'est ma job. Mais si moi, je suis ton premier répondant, t'es vraiment mal pris, là. Un, parce que je ne vaux pas grand-chose à côté de la Bible. Fait que, s'il te plaît, tourne-toi vers quelqu'un de plus compétent que moi ou n'importe quel pasteur à l'espoir. Mais deuxièmement, parce que ce n'est pas ça. Notre rôle à nous, c'est d'enseigner les Écritures pour que tu te nourrisses des Écritures. Donc, j'aimais cette image-là de Paul Tripp. Paul Tripp, il dit non, dans ma vie personnelle, la Bible, c'est mon premier répondant. Questions, difficultés, défis dans ma journée, les Écritures sont toujours là. En sorte à ce que quand j'arrive dans une situation au travail, avec un voisin, une relation, peu importe, c'est la parole de Dieu qui vient. Tout dans ma tête. Premier répondant. Parce qu'elle est là, elle est disponible, elle est prête. D'accord? Est-ce que la Bible te sauve quotidiennement? Si oui, la Bible est ton premier répondant. Il faut que j'avance un petit peu. La Bible nous enseigne. Elle nous enseigne à penser. La Bible nous enseigne à penser selon Dieu. Ce n'est pas facile de penser selon Dieu. Il y a plein de questions dans nos vies, dans notre rapport à des choses, où on ne pense pas selon Dieu. Notre rapport à la nourriture. On parle d'addiction, de dépendance à la pornographie chez les jeunes hommes, chez les jeunes filles aussi, chez les vieils hommes, chez tous les hommes, chez peut-être plusieurs femmes. Parlons de la dépendance à la nourriture. Ça me fait toujours un petit peu sourire quand je dis à quelqu'un, « As-tu déjà jeûné 3 jours? » Là, les gens sont comme, « Écoute, je jeûne 2 heures, puis je sens que je vais perdre connaissance. » OK, tu n'as jamais jeûné 3 jours. Peut-être que tu ne peux pas le faire parce que tu as des médicaments, des choses comme ça. Consultez votre médecin, ce n'est pas un avis médical. Mais tu n'as jamais jeûné 3 jours, sérieusement? Est-ce que tu t'es déjà privé de sucre pendant 3 mois? D'alcool pendant 1 an? Pourquoi pas? C'est juste un exemple, mais est-ce que les Écritures t'enseignent à penser? Est-ce que les Écritures t'enseignent à penser? Est-ce qu'il y a des domaines où tu dis, « Ouais, mon Église croit ça, mais moi, non. » Un jour, j'ai quelqu'un qui a quitté l'Église ici pour aller dans une autre assemblée, puis grand bien lui en fasse, c'est toute sa liberté de le faire. J'ai dit, tu sais que là-bas, les Écritures sont moins enseignées, puis il y a des choses qui enseignent là-bas qui sont contraires à ce que tu crois, je pense. Cette personne-là m'a dit, oui, je sais, mais Yannick, tu nous as bien enseigné, donc on a du discernement. OK, fait qu'il s'en va dans une église où déjà, il estime qu'il y a plus de discernement que le pasteur. Ça va être long, là. Ça va être long. Est-ce qu'il y a des domaines où tu dis, ouais, mon Église croit ça, j'entends ça des fois, mon Église croit ça, mais moi non. J'espère que tu peux défendre solidement avec les Écritures ça. Parce que la Bible nous enseigne à penser. Il y a fort à croire que si ton Église enseigne ça, on n'est pas loin de la vérité biblique. D'accord? On a le droit des divergences, il n'y a pas de souci. Il y a des sujets qui sont très secondaires dans la Bible, on n'a pas besoin d'être tous alignés. Mais mon Église enseigne ça. D'habitude, on enseigne en gros les doctrines essentielles. On ne s'attarde pas beaucoup sur les éléments où ça, c'est à ta discrétion. On enseigne plutôt la liberté de conscience. Donc, la Bible enseigne à penser. Et je pense particulièrement aux gens qui ont adhéré à tous les médiums contemporain d'information, YouTube spécialement, j'en suis là. Je vous dis, je consomme de l'information et de très grande qualité, mais est-ce que c'est ça qui m'enseigne à penser ou est-ce que c'est la Bible qui m'enseigne à penser? Parce que j'ai constamment besoin d'être réformé. Une des idées fortes dans la réforme protestante, c'était l'idée que notre pensée a besoin de réforme constante. Et donc, l'Église a besoin de réformes constantes. Pas dans le sens qu'on change les doctrines, dans le sens qu'on a besoin de retourner aux Écritures et se remettre en question constamment. C'est une des idées très, très fortes de la réforme protestante du 16e siècle. La Bible nous recentre sur la gloire de Dieu. Paul Tripp a une expression là-dedans, il dit « on est des « glory thieves ». On est des cambrioleurs de gloire. Par nature, on a ce vilain défaut de chercher à voler la gloire à Dieu. Et là, on cherche notre gloire, puis on est centré sur nous. Là, quelqu'un nous offense, quelqu'un, tu sais. Pourquoi est-ce que c'est si difficile de pardonner à quelqu'un quand Jésus est mort sur la croix pour tous tes péchés? Mais parce que tu penses que tu n'es pas le plus grand des pécheurs. Si tu penses vraiment profondément dans ton cœur que tu es le plus grand des pécheurs, ça devrait être faisable de pardonner. La Bible nous recentre sur la gloire de Dieu. Et quand je retourne aux Écritures quotidiennement, ce qui m'est rappelé, cette semaine dans notre plan de lecture, on a eu quelques méditations qui parlaient de la souveraineté de Dieu, puis là tu vois pas où Dieu s'en va, puis tu sais pas ce qu'il fait, on est Esther, on l'a vu dans les Actes, tout ça, puis mais qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Dieu fait juste me rappeler, c'est lui le patron, c'est pour sa gloire, ma vie est à son service. Cette semaine, j'ai eu à dire à quelqu'un, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. J'ai eu à me le dire à moi aussi, honnêtement. Cette semaine. Dieu est au contrôle. Je fais juste attendre les directives pour la prochaine. Cette semaine, là, j'avais des journées, c'était, donne-moi les directives pour la prochaine heure. Parce que je ne suis pas capable de deviner c'est quoi la tuile qui va me tomber dessus l'heure d'après. En fait, quand je termine ici, je m'en vais prêcher à Doxa. Oui, Eric, j'arrive. D'accord? C'est correct. C'est pas Yannick. C'est la gloire de Dieu. Les Écritures nous ressentent sur la gloire de Dieu. Et si tu ne vas pas vers les Écritures régulièrement, chaque jour, pour être recentré sur la gloire de Dieu, tu vas prendre offense, tu vas être blessé, tu vas être froissé, on va s'en prendre à toi. It's all gonna be about you. La grande question, c'est comment me traite-t-on? Mais si tu lis les Écritures, tu vas te rendre compte que c'est quand même assez secondaire comme question. Selon Paul, c'est comment traite-t-on Dieu? Comment traites-tu ton prochain? Puis il reste de la place aussi pour le reste. Mais c'est ça, non? C'est quoi les deux plus grands commandements? Tu aimeras Dieu, tu aimeras ton prochain. Comme toi-même, je suis d'accord. Mais le commandement, ce n'est pas « tu t'aimeras toi-même », c'est « tu aimeras ton prochain ». C'est ça le commandement. Les Écritures nous recentrent. Les Écritures nous avertissent. On lit les Écritures comme des avertissements. Dieu nous met en garde. Une des choses que les Écritures font le plus souvent, c'est qu'elles nous mettent en garde. Comme un parent fatigant, là, tu sais, qui dit à son jeune, attention, là. Ou des fois, quand je dis à mon épouse, elle s'en va, puis je dis, chérie, t'es concentrée au volant, hein? Oui, je suis concentrée au volant. Je suis fatiguant avec ça. Hein, conduis pour les autres. Hein, vous avez déjà dit ça à des gens qui sont en train d'apprendre à conduire? N'oublie pas, là, conduis pour les autres. C'est des avertissements. La Bible est remplie d'avertissements. Elle n'est pas toujours en train de nous condamner. Juste en train de nous dire, ben voici ce qui pourrait arriver aujourd'hui. Je t'avertis. Les Écritures nous encouragent et nous motivent par des promesses. Il y a des gens qui suivent des prédicateurs de pensée positive, des espèces de prédicateurs là, de l'Évangile de la prospérité, puis là, ils ont besoin de ça pour être motivés. Mais c'est la Bible qui donne toutes les promesses de Dieu. Les Écritures sont vraiment là pour nous motiver. T'es découragé, va lire la Bible. Les Écritures sont pleines de promesses. Et Dieu veut nous encourager. Il est là, il marche à côté de nous. Je vous ai donné quelques passages, mais j'aurai pas le temps de toutes les lire. Enfin, les Écritures nous confrontent. Dieu nous reprend. Dieu nous confronte à notre péché. Des fois, je lis les Écritures, puis c'est lourd parce que je me sens coupable. Mais c'est bon. C'est tellement bon, c'est tellement salutaire. Je me souviens, mon premier pasteur, premier coach, Richard Roule, faisait du coaching avec moi, puis on abordait un défi dans ma vie, un péché. Puis, il me dit, Yannick, le problème, ce n'est pas que tu manques de foi, c'est que tu manques de repentance. Fait que va dans la parole, va dans la prière, demande à Dieu de te donner un cœur repentant. Ton cœur n'est pas repentant. Et je vais dans les Écritures pour que Dieu me confronte, mette un miroir devant moi. Et oui, des fois, c'est violent, c'est contrariant, mais c'est salutaire, c'est les Écritures qui me sauvent. Enfin, les Écritures guident nos pas dans le monde. Elles aiguisent notre sagesse. Je pense que je l'ai dit la semaine dernière, mais moi, j'ai une profonde conviction, puis plus les années passent, plus cette conviction-là s'affermit. Si un chrétien lit les Écritures au complet chaque année, je pense que je l'ai dit la semaine dernière, et s'il se joint à une église qui prêche par exposition la parole, il développe, elle développe, un discernement global très aiguisé. Pas besoin de bac en théologie, pas besoin de maîtrise ou de doctorat. Tant mieux si tu aimes étudier la parole, vas-y, fonce. Mais pour avoir un discernement du bien, du mal, de la fausse et de la saine doctrine, si tu lis les Écritures chaque année, et si tu es dans une église qui t'apprend à aller plus loin en prêchant par exposition, ce que j'ai observé avec les années, c'est que les gens ont énormément de discernement. Des fois, ils n'ont pas les mots. Ils ne peuvent pas dire, voici cette fausse doctrine et voici comment les Écritures se confrontent à ça. Mais il y a un discernement, il y a des lumières qui s'allument et qui disent, oh, il y a quelque chose qui cloche ici. Parce que les Écritures nous donnent de la sagesse. Et c'est vrai dans les enjeux moraux et éthiques au travail. Tu vois un petit malaise à l'intérieur, tu dis, il y a de quoi qui cloche ici. Et je vais m'arrêter, j'ai dépassé mon temps. Je suis désolé. Vous allez pouvoir lire la balance des notes. Je voulais juste insister à la fin sur mes questions de réflexion personnelle. Lorsque je vais vers les Écritures, ça devrait se faire avec une attitude de joie, de reconnaissance. Merci, Seigneur, de me parler ce matin. Merci de prendre soin de mon âme. Je vous l'ai dit, c'est comme si vous aviez un rendez-vous avec la personne qui vous fait le plus de bien quand vous prenez un café avec. Cette personne-là vous attend tous les jours dans la parole. L'Esprit-Saint est là pour vous parler par les Écritures. Je devrais y aller avec un profond sens de mon besoin. J'ai besoin de ça comme j'ai besoin d'oxygène. Et avec un engagement concret à dire, Seigneur, éclaire-moi aujourd'hui. Alors, voici mes questions pour vous. Quelle place réelle la parole de Dieu occupe-t-elle dans ma semaine? Des vitamines que tu oublies de prendre une journée sur deux? Ou vraiment un style de vie. Dans quel domaine ai-je tendance à me fier davantage à mon propre jugement qu'à la sagesse de Dieu? Est-ce qu'il y a des domaines où tu es en litige avec la Bible? Tu es rendu à ton troisième appel en Cour suprême pour dire « je ne suis pas d'accord ». Est-ce que je vois la Bible surtout comme une obligation ou comme un don, comme un cadeau? Tu donnes à ton fils une tondeuse. Je pense qu'il le voit comme une obligation. Est-ce que la Bible pour toi, c'est une tondeuse? Ou si c'est vraiment un cadeau de Dieu? Quelle serait une application concrète de ce chapitre pour ma vie cette semaine? C'est bon? Je prie, puis on se revoit la semaine prochaine. C'est moi qui enseigne le cours aussi la semaine prochaine. Seigneur, notre Dieu, merci pour ta parole. Elle est merveilleuse, Seigneur. Je confesse qu'en me préparant cette semaine pour donner cette leçon, tu me confrontais, Seigneur. Ça ranimait encore plus d'amour pour ta parole, juste de me préparer à cette leçon. Je le confesse devant mes frères et sœurs, Seigneur. Ta parole est suffisante. Elle est parfaite, Seigneur. Elle est à savourer. Seigneur, je te prie de venir nous aider à vivre ce que nous croyons sur ta Bible tous les jours cette semaine. Et Seigneur, qu'on puisse y prendre goût. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Dieu vous bénisse.